Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Bonjour à tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Je m'appelle Catherine Trudelgui, puis j'aurai le plaisir d'animer l'émission À ta santé, où on vous parle deux fois par mois d'enjeux de santé publique, de médecine communautaire et de nutrition. Donc, l'idée de créer cette émission vient du comité SPOD de l'Université Laval, qui est associé à la clinique communautaire et d'enseignement, qui a aussi le même nom, et qui a pour mission de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux d'accès aux soins de santé et aussi des populations marginalisées. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Frédérique Lambert-Sleight, qui est nouvellement médecin spécialiste en santé publique dans l'équipe de prévention et protection des maladies infectieuses de la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, donc rien de moins. Elle a également comme autre mandat d'être clinicienne au programme de traitement du trouble lié à l'usage des opioïdes au Centre de réadaptation en dépendance de Québec. Donc, bonjour Anne-Frédérique.
Bonjour Catherine.
Est-ce que ça te convient si on se tutoie là, pour l'entrevue?
Oui, il n'y a aucun problème.
Parfait. Donc, Anne-Frédérique, en fait, on sait que la pandémie a créé vraiment un lot de bouleversements, que ce soit de façon individuelle, si on l'a tous vu là, à notre façon, mais également au niveau de la société, puis on s'en rend compte actuellement là, quand on lit les nouvelles, par exemple. Puis, on sait aussi que certaines personnes ont vu une occasion de la pandémie pour se réinventer. Puis, il y en a d'autres aussi qui ont souffert grandement des dommages collatéraux de la crise sanitaire actuelle. Puis, toi, en tant que spécialiste en santé publique, comment ton rôle a été crucial, finalement, dans cette gestion sanitaire?
Oui, c'est une très grosse question pour débuter l'entrevue, mais peut-être avant de rentrer là, dans le vif du sujet, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs là, de la santé publique qui ont été impliqués dans la gestion de la et qui sont encore là, dans la gestion de la crise sanitaire. Je dirais qu'il y a trois grands organismes. Là. Il y a le ministère qui prenait vraiment les décisions. Il y a aussi l'Institut national de santé publique qui avait vraiment qui était vraiment en expertise médicale. Puis il y avait là les directions de santé publique régionales là, dans chacune des régions administratives du Québec, qui, je dirais, faisait le pont entre ce qui venait là, du ministère de l'INSPQ, puis d'appliquer là, les recommandations puis les éléments pour gérer la crise, mais au niveau régional. La santé publique, c'est hyper large, puis certains des éléments là, qu'on fait au jour le jour, ben on est beaucoup dans la surveillance des différentes maladies, dans la planification là, des services de santé, la prévention, la protection, puis dans l'expertise, dans la recherche, puis aussi dans la communication. Fait que tous ces éléments-là, c'est vraiment des éléments là, qu'on a eu à développer, puis des outils qu'on a eu à apprendre au cours de la pandémie. Au premier plan, notre rôle, c'est vraiment un rôle de protection de la santé, notamment de gérer la menace infectieuse là, causée par la COVID, d'éviter la transmission de la COVID, puis quand il y avait de la transmission, bien, de limiter en fait là, la grosseur de nos éclosions. Ça, c'était vraiment notre rôle premier, mais il y avait aussi tout un rôle de prévention, puis on l'a beaucoup vu hein, au niveau des communications qu'on faisait, mais tu sais, de prévenir les éclosions, de prévenir la transmission. Fait que je dis souvent que notre rôle, c'est un peu un rôle de traduction, donc de voir ben qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est recommandé au niveau ministériel, puis tu sais, comment qu'on le diffuse à notre population. Fait que ça, c'était vraiment un des rôles cruciaux là, qu'on a eu à gérer dans la pandémie. Évidemment, la pandémie, on l'a vu en plusieurs vagues. Fait que, tu sais, oui, on nommait les vagues, mais il y a des populations différentes qui ont été atteintes. Là, si on pense à la première vague, c'était vraiment nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées qui ont été atteintes. Quand on a avancé, il y a eu tous les milieux de travail, plus la transmission dans le milieu communautaire. Puis cet automne, ce qu'on voit, c'est vraiment de la transmission, notamment là dans nos écoles, chez nos jeunes qui sont pas encore vaccinés. Donc, il y a vraiment eu une évolution, puis il faut s'ajuster puis s'adapter à chaque vague parce que les interventions sont différentes, puis il faut s'adapter à nos populations. On a vu là au cours de la pandémie des éclosions ou des situations qui sont survenues parfois dans des milieux où les populations sont plus vulnérables, sont plus désaffiliées, puis où notamment les recommandations de santé publique étaient plus difficiles soit à respecter ou même à comprendre pour différentes raisons. Puis notre rôle là, de direction de santé publique régionale à ce niveau-là, ben c'était aussi de faire en sorte d'adapter nos recommandations puis les mesures qui était recommandé pour, si je peux oser dire, monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais, qui peuvent pas s'appliquer à certaines populations. On peut penser à des populations sans domicile fixe, donc qui ont pas de lieu là où s'isoler, par exemple, s'ils étaient en contact avec des cas de COVID. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour s'adapter puis pouvoir limiter la transmission, mais chez ces populations-là, on peut penser à des cliniques mobiles de dépistage, on avait des équipes de soutien dans les milieux communautaires, le vaccinobus aussi qui se promenait. Là, on a notamment organisé une campagne de vaccination dans des milieux communautaires. Donc, plusieurs éléments là où on a dû à s'adapter.
Puis, tu parles beaucoup de prévention actuellement, puis c'est ce qu'on pense, en fait, quand on pense à la santé publique. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de jongler entre, justement, l'aspect préventif, comme tu l'as mentionné à certaines reprises, mais aussi l'aspect plus gestion de crise?
Bien, je dirais oui, ça a été un défi, mais je dirais un beau défi, puis je pense qu'il fallait prendre les opportunités, puis pas juste en temps de COVID, mais tu sais, la prévention, c'est souvent le parent pauvre hein, de la médecine. Donc, on parle beaucoup, tu sais, de soins curatifs. La prévention, ben, on en entend de plus en plus parler, mais c'est souvent oublié. Puis souvent, en fait, ça prend des situations de crise pour faire comprendre à une population, tu sais, certaines problématiques, pour agir sur certains, par exemple, déterminants de la santé. Fait que je pense que ce qu'on pouvait faire, c'est de voir en certaines crises, certaines éclosions, quand on était vraiment en protection, de dire, ben, il faut mettre des mesures, il faut limiter la transmission, ben, c'était le moment aussi de faire de la prévention, d'éduquer notre population, c'est quoi la COVID, comment faire pour la prévenir, fait que je pense qu'il fallait vraiment le voir comme une opportunité. Mais oui, ça amenait des défis parce que quand on parle avec des milieux, si je prends nos milieux communautaires ou nos milieux de soins, ben, les gens sont vite, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour éviter, mais il y a quand même tout un rôle, c'est ça, d'éducation, puis de comprendre le pourquoi on met des mesures en place.
Puis c'est aussi un virus que vous avez appris à vivre avec, j'imagine, dans le temps. Donc, les messages que vous utilisiez en prévention devaient aussi s'adapter avec la nouvelle littérature là, sur le sujet, j'imagine.
Oui, énormément, parce que c'est ça, au début, hein, quand c'est arrivé, là, en fait, en début 2019, ben on connaissait pas ce virus-là, là, le SARS-CoV-2, on connaissait pas c'était quoi, on savait oui comment il se transmettait, mais à quel point il était contagieux. C'était quoi les symptômes, comment, tu sais, il y avait beaucoup de choses nouvelles, puis la littérature sort à une vitesse grand V, donc oui, il faut toujours s'adapter, et donc les messages changent. C'est difficile pour nous, mais c'est encore plus difficile pour la population parce que les mesures, des fois, sont difficiles à suivre, puis c'est des fois bien, bien malgré nous, parce que c'est ça, tout évolue hyper rapidement.
Puis j'en ai discuté un petit peu tantôt, là, tu sais, souvent dans la tête un peu de tout le monde, là, la santé publique, c'est vraiment plus accès à des messages, tu sais, de prévention. Puis c'est aussi même pour certains étudiants en médecine une spécialité, ou même les étudiants en santé, là, c'est une spécialité, si on veut, qui est un peu obscure là, pour beaucoup de gens encore. Puis par ailleurs, justement, comme je le mentionnais, on pense beaucoup à la prévention quand même en santé publique. Puis, comment ton rôle, en fait, a été drastiquement modifié? Parce que tu en as parlé un peu, là, tu fais de la prévention et de la gestion de crise, mais finalement, tu t'es ramassé à faire beaucoup de gestion de crise au quotidien, j'imagine. Puis, est-ce que tu as l'impression que ça va modifier ta pratique dans les prochaines années en considérant là, des pandémies, le futur qui pourrait arriver.
Ben oui, en fait, la prévention, c'est un des volets de la santé publique, mais le volet protection, là, donc protection de la santé, protection des maladies infectieuses, c'est quand même un aspect important. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a comme tous nos autres outils de travail là, qui ont été utilisés puis qui le sont encore, mais tu sais, au niveau de la communication, toute la surveillance aussi de la vigie sanitaire, donc en traduction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de voir, ben, tu sais, c'est quoi la situation épidémiologique? Par exemple, si on prend la COVID, nos cas de COVID, où est-ce qu'ils sont? Comment ça se transmet? C'est qui nos cas secondaires? Sont dans quel quartier nos cas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des patterns qui se créent? Fait que tout ça, en fait, c'est vraiment des outils qui nous servent, en fait, là, à faire, ben, notre prévention et notre protection. Puis, en fait, la pandémie a quand même amené, oui, a modifié notre, a modulé notre rôle, mais je pense que ça l'a bonifié, ça va continuer à le faire. Mais tu sais, on s'est beaucoup rapproché en fait, notamment de nos collègues cliniciens, en les accompagnant dans la gestion des cas individuels, mais aussi dans la gestion du risque populationnel puis la gestion des éclosions. Évidemment, quand la pandémie elle a débuté, ben on a dû quand même s'adapter là en apprenant à travailler dans l'urgence, hein, souvent en santé publique, bon, on a le temps de penser, quand on est en prévention, mais c'est ça, c'est de monter des beaux programmes. Fait qu'évidemment, en urgence, ça change. Je dirais que moi, j'ai eu la chance de faire une formation complémentaire justement en protection. Puis la notion d'urgence est quand même toujours plus là. Donc ça, c'est sûr que ça m'a aidé. Puis évidemment, on a eu de l'aide, c'est beaucoup de ressources humaines pour venir nous aider. Puis comment ça va me donner notre pratique future? Ben c'est sûr que on a vraiment appris à travailler en équipe, hein. On peut pas gérer une pandémie tout seul assis dans son bureau. Fait que en parlant, tu vois, on a des médecins, mais on a beaucoup de professionnels de recherche, d'infirmiers, d'infirmières, de gestionnaires là, qui sont impliqués. Puis un élément vraiment vraiment important, c'est toute la notion de développer des liens avec nos partenaires. Fait que quand je pense à nos éclosions dans les milieux communautaires, ben c'est avec nos organismes. Quand c'est dans les CHSLD, c'est avec ces milieux-là, les infirmières, les gestionnaires sur le terrain, pour nous aider à comprendre puis à les aider à adapter les mesures à mettre en place. Puis je l'ai mentionné précédemment aussi, mais de développer un système de vigie-surveillance en temps réel pour justement surveiller nos éclosions, la situation épidémiologique, puis de pouvoir intervenir adéquatement selon cette situation-là, qui a été modulée.
C'est très complexe quand même.
Quand même.
comme je le mentionnais en entrée de jeu, en fait, dans l'émission, tu travailles également là, quelques jours par semaine au programme de traitement du trouble lié à l'usage des opioïdes. Puis c'est quoi ton rôle en fait en tant que médecin justement en santé publique là, à ce niveau-là avec cette population type là, puis pourquoi t'as décidé aussi de faire quelques journées par semaine là à travailler plus en vraiment en direct là, en contact avec cette population disons plus vulnérable.
En fait, je dirais que c'est plutôt rare les médecins spécialistes en santé publique qui font de la clinique. On est très peu au Québec à faire ça. Mais en fait, un de mes rôles en santé publique, là, à la direction de santé publique, c'est que je suis responsable de toute l'équipe des réductions des méfaits liés aux drogues. Donc, ça, c'est vraiment de mettre en place des programmes populationnels pour aider là, les utilisateurs de substances psychoactives. Donc, on peut penser à justement au service de consommation supervisée qui a été mis en place, la distribution de matériel de consommation stérile, la distribution de naloxone qui est l'antidote aux opioïdes. Donc, ça, c'est vraiment un de mes rôles de santé publique et le fait, en fait, d'avoir un travail de clinicien aussi, je trouve que c'est très complémentaire à ce que je fais en santé publique. Donc, ça me permet en voyant en consultation des patients donc qui consomment là, notamment des opioïdes, mais ça me permet d'avoir une autre approche individuelle, de voir ce qui se passe sur le terrain, de voir aussi c'est quoi les tendances là, de consommation, puis de voir des patients individuels, ça me permet aussi de voir de comment on peut développer des programmes populationnels, mais qui sont vraiment adaptés à chaque personne, puis d'un point de vue individuel. Donc, ça semblait un peu farfelu de faire les deux, puis de joindre les deux, mais je trouve que autant mon approche de clinicienne m'apporte au niveau santé publique, mais également tout ce qu'on peut développer en santé publique au niveau de la réduction des méfaits, de voir on a combien de surdoses par mois, où est-ce qu'ils sont ces surdoses-là, c'est quelle substance, ça permet d'agir aussi au niveau des individus quand je suis en consultation.
Intéressant. Puis, si on revient un petit peu plus là, par rapport à la pandémie et cette population-là plus vulnérable, on n'en a pas tant parlé dans les médias. T'sais, on était beaucoup axé justement sur les CHSLD, comme tu le mentionnais au début, parce que ça a été beaucoup l'enjeu au niveau de la première vague, puis il y avait énormément d'inconnus à ce niveau-là. Par la suite, on parlait des jeunes adultes en santé qui avaient aussi la COVID. Après ça, on parlait de la pandémie des non-vaccinés, etc. Puis, on a passé un peu sous silence. Je ne sais pas si c'était voulu. Des fois, on ne veut pas trop parler des populations vulnérables. Mais pourtant, on sait que ça a été des enjeux très importants, là, notamment en santé publique. Quand on passe, entre autres, au passeport vaccinal, où c'est difficile de s'en procurer un, ou même l'accessibilité à un vaccin ou la littératie aussi en santé là, chez une population qui est peut-être moins éduquée. Puis toi, tu as l'impression que c'est quoi les services justement qui ont été les plus touchés là, par rapport à la pandémie, puis comment ça l'a affecté, là, la dignité, l'accessibilité là, à ces services-là dans cette population de patients plus vulnérables?
Bien, je pense que tu l'amènes très bien, hein, qu'il y a eu des vagues, puis qu'on a entendu beaucoup parler dans les médias des différentes populations touchées. Puis c'est vrai qu'on a moins entendu parler des populations vulnérables. En fait, il y a eu plusieurs impacts. Puis, tu sais, je dirais, il n'y a pas eu justement de grandes vagues où, tu sais, on se dit, ben c'est les populations, pour dire quelque chose, sans domicile fixe, ou les consommateurs, ou, tu sais, qui ont été atteints. Par contre, depuis le début de la pandémie, tu sais, on le voit qu'on a des éclosions dans ces milieux-là, puis que c'est des milieux, pour différentes raisons, mais tu sais, tu as parlé de la littératie en santé, tu sais, du niveau d'éducation. Il y a plusieurs déterminants de la santé qui font que, pour certaines populations, il y a une recommandation où ce qu'on conseillait d'un point de vue sanitaire était plus difficile à suivre. Pour nos populations vulnérables, il y a eu plusieurs impacts, mais notamment au début de pandémie, les organismes communautaires, il y en a plusieurs qui ont fermé ou qui menaçaient de fermer. Pour certaines personnes, les organismes communautaires, c'est pratiquement leur seul contact social. Fait que c'est sûr que ça a eu quand même des impacts majeurs sur la vie des personnes plus désaffiliées. Évidemment, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Les organismes, on a trouvé des moyens pour qu'ils demeurent le plus possible ouverts. Mais c'est sûr que avec toutes les mesures d'isoler là, les cas ou les contacts, il y avait des menaces de fermeture. Donc, c'est sûr qu'ils étaient toujours dans une situation précaire. C'est les organismes là, qui viennent en aide à nos populations plus vulnérables. En fait, tout au long, il a vraiment fallu s'isoler, puis c'était loin d'être parfait, hein, parce que malheureusement, c'est comme souvent un pan de la société qui est mis de côté, puis des mesures qui sont pas adaptées. Mais c'est sûr qu'il a fallu faire beaucoup d'enseignement à ces milieux-là, beaucoup d'accompagnement quand il y avait des situations à gérer dans ce milieu-là. Donc, un cas de COVID qui a fréquenté un milieu, on était vraiment en support à ces milieux-là. Puis là, je parle vraiment pour la région, c'est ce qu'on a fait. Mais tu sais, c'est ça, d'accompagnement, des discussions à tous les jours de comment isoler, comment on peut moduler nos interventions en demeurant ouvert, mais en demeurant sécuritaire pour pas qu'il y ait d'éclosion. Fait que c'est vraiment le genre de choses qu'on a fait pour aider là, nos milieux. Puis on a quand même aussi ouvert certains centres. On avait un centre de convalescence vraiment pour nos populations désaffiliées qu'il fallait être isolées, qui devaient être isolées, puis qu'il n'y avait pas d'endroit où s'isoler parce que c'est des gens sans domicile. Fait qu'on a quand même adapté nos interventions comme on l'a.
Puis, est-ce que tu as l'impression ou tu as perçu que, justement, il y a eu une augmentation de la consommation d'opioïdes ou de d'autres drogues là, durant cette période-là?
C'est difficile d'avoir des données probantes vraiment sur ces enjeux-là. Par contre, tu sais, en clinique, oui, je peux dire que je l'ai vu, puis c'est ce que les patients nous mentionnent, en beaucoup plus de détresse psychologique chez nos patients, beaucoup plus de, ben, tu sais, les gens qui étaient en, on était confinés, le couvre-feu, tout ça, donc, où les gens, c'est ça, mentionnaient la détresse, mentionnaient l'anxiété, des symptômes dépressifs, puis mentionnaient aussi que ça les amenait à consommer, oui, davantage, pour pallier, là, à tout ça.
Qui est des nouveaux enjeux finalement au quotidien là, pour vous.
Oui, vraiment. Donc ça, c'est vraiment au niveau individuel, c'est ce qu'on entendait. Évidemment, tu sais, au niveau populationnel, on essayait quand même de trouver des façons pour qu'il y ait de la consommation, mais de manière plus sécuritaire. Puis un autre élément aussi qu'on a constaté, c'est lorsqu'il y a eu la fermeture des frontières, ben il y a eu quand même des enjeux, donc une diminution là, de l'approvisionnement en drogue. Donc on a vu plusieurs substances qui étaient vraiment moins disponibles, qui étaient plus chères sur le marché noir. Beaucoup l'arrivée aussi de substances là, de mauvaise qualité. Donc on attribue notamment là, à la fermeture des frontières. Il y a d'autres hypothèses, mais ça en était vraiment un. Puis tout ça a pu amener en fait à l'augmentation là, de nos surdoses de substances psychoactives. Puis c'est ça, des gens qui cherchent des substances qui trouvent pas leur substance de choix qu'on appelle, puis qui se retournent vers d'autres substances là, lesquelles qui sont pas habituées de consommer, qui ont des enjeux pour leur santé.
Puis par-dessus un peu tout ça, là, toutes les tâches qui étaient eues à gérer dans les derniers un an et demi, deux ans, en début d'année là, dernière, en fait, tu as participé à l'ouverture du premier centre d'injection supervisée à Québec. Ben, félicitations premièrement. Puis en quoi ce centre vient pallier en fait à la problématique justement actuelle d'itinérance, puis peut-être aussi aux nouveaux enjeux là, qui sont liés à la consommation actuellement?
Ben peut-être, tu sais, tu as nommé le centre d'injection supervisée. On a comme une nouvelle nomenclature puis qu'on appelle en fait service de consommation supervisée parce que oui, on peut consommer en fait par injection dans ce centre-là, mais ce qu'on voit beaucoup et de plus en plus, c'est de la consommation en fait par inhalation. Donc, dans ce centre-là là, qu'on a ouvert, il y a comme, en fait, c'est à peu près la moitié pratiquement de la consommation qui se fait, qui est par inhalation. Puis, il y a quand même des risques à la santé de consommer de cette manière-là. Donc, dans notre service de consommation supervisée, je dirais que l'objectif puis la population cible, c'est davantage au niveau des consommateurs de substances psychoactives versus les personnes en situation d'itinérance, là, comme tu as mentionné. Il y a d'autres services qui sont davantage adaptés pour les itinérants là, dans la ville, bien qu'il y a quand même plusieurs consommateurs qui sont également en situation d'itinérance, mais pour ces personnes-là, il y a quand même des corridors de services qui peuvent être effectués à partir du SCS, là, notamment. Les objectifs, en fait, du service de consommation supervisé, ben c'est de prévenir là, la transmission des infections transmissibles par le sang, puis comme le VIH, l'hépatite C, de limiter en fait nos surdoses et les décès en fait associés à des surdoses, puis de réduire aussi l'injection et la consommation là, de drogue dans l'espace public. Fait que ça, c'est vraiment nos trois plus grands objectifs du service d'injection, du service de consommation supervisé.
Parfait. Puis est-ce que depuis, bon, ça fait environ un petit peu plus que 6 mois là, que ça a été mis en place, puis justement, c'est le premier centre comme tel là, à Québec. Est-ce que tu as l'impression que vous avez atteint là, certains ou l'ensemble de vos objectifs là, avec ce centre-là?
Ben c'est difficile à dire après 4 mois si on a atteint les objectifs. En fait, c'est des objectifs qui sont difficiles aussi à quantifier des fois. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le centre, selon nos prévisions, là, il y a vraiment plus de personnes qui le fréquentent, ce centre-là, que ce qu'on croyait. Là. Donc, on est victime de notre popularité, si je peux dire. Là, donc, avec peu de cubicules qui ont été aussi restreints là, en temps de COVID parce qu'il fallait garder la distanciation. Mais tu sais, une bonne fréquentation, beaucoup de counseling qui est fait là, au niveau pour avoir de la consommation à moindre risque, donc de ne pas réutiliser son matériel, de bien faire l'injection, la consommation, La distribution de naloxone aussi qui est hyper important pour nos milieux pour en fait pouvoir renverser les surdoses. Donc, beaucoup de counseling au niveau de la prévention des ITSS aussi. Donc, c'est difficile de dire, ben, il y a moins de surdoses à cause de ça ou, tu sais, il y a moins de transmission d'ITSS après seulement quelques mois. Mais nos objectifs à court terme, là, oui, sont atteints notamment au niveau de la fréquentation du site puis de la, je dirais que les gens aussi, on en voit qui viennent nous voir en traitement pour débuter un traitement. Puis les gens sont vraiment satisfaits là, du service qui est offert à l'heure actuelle.
Bien, entre tant mieux. Puis je vois que justement, il y a malgré un peu cette lourdeur-là, des fois dans ton travail, des réussites justement au quotidien. Puis c'est pour finir avec une note un peu positive justement sur la dernière année et demie, deux ans, est-ce que justement, tu as envie de partager certaines réussites ou des défis là, qui sont quand même positifs là, au quotidien en santé publique?
Mm-hmm. Ben, je dirais que la dernière année en soi a été un défi, je crois, en termes d'urgence puis de charge de travail, je pense, pour tous, là, puis pas juste en santé publique. Là, ça a eu des énormes conséquences sur notre société. Mais en gros, je pense que la santé publique était une spécialité qui était quand même méconnue. Moi, je parle juste à quand je disais que j'étais dans la santé publique, la majorité des gens me disaient, ben, qu'est-ce que ça fait, ça, un médecin en santé publique? Fait que je pense que c'est une spécialité qui est en émergence. Tiens, comme je dis, on pensait souvent avant à la médecine comme d'un point de vue curatif, mais il y a tout un élément de prévention, tu sais, puis d'agir en amont des problématiques de santé. Fait que je pense que ça a fait sortir ça. Puis je pense que cet élément-là, en fait, peut réellement avoir un impact là, sur notre société. On a, ben, abordé avec moi, tu sais, c'est la pointe de l'iceberg. On a parlé un peu de la gestion de la pandémie, puis, tu sais, de mon implication en réduction des méfaits, mais il y a tellement de sujets qui ont un impact sur la santé puis qui sont pris en charge ou la santé publique est impliquée. On peut penser, tu sais, à l'implication du point de vue des changements climatiques, du développement d'environnement bâti ou d'environnement favorable pour amener en fait des saines habitudes de vie. Fait que les impacts sont vraiment énormes. Fait que je pense que tu sais tout ça, on gagne à être connu puis tu sais à agir comme ça plus en amont. Mais tu sais puis aussi on peut quand même voir du positif sur notre travail puis notre implication au quotidien. Mais tu sais on a vraiment développé des liens avec nos partenaires. On a développé des outils qui nous aident. Là, je pense à notre système de surveillance plus en temps réel. Évidemment, on a développé quand même une expertise là, en gestion de crise sanitaire. C'est ça. Enfin, je pense que puis au niveau de. C'est ça. Je pense que c'est vraiment une des richesses, c'est la collaboration qu'on a développée là, avec les milieux, avec le terrain. Puis je pense que c'est.
Bien, il va falloir que je te réinvite dans ce cas-là parce qu'il y a plein d'autres choses à dire.
Absolument!
Mais merci beaucoup, Anne-Frédéric Lambert-Slide, je répète, d'avoir participé à l'émission. Puis je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci, toi aussi.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. À la prochaine!